Bien. Bon, mais je crois qu'on va pouvoir commencer cette séance. Je voulais tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai à présider cette séance et à remercier ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire en priorité la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales du Collège de France, la maison d'Auguste Comte à Paris et l'équipe Identité et subjectivité de l'Université de Caen. J'ajouterai que ce projet sur Auguste Comte est un vieux projet et je suis très content qu'un ancien élève à moi, si j'ose le rappeler, Vincent Guillain, dans une vie antérieure, et un vieux camarade comme Laurent Clausat de la maison d'Auguste Comte, aient pu mener à bien ce projet de journée d'études sur physiologie et psychologie au temps d'Auguste Comte. Il me semble que, comme disait Anne Fagot-Largeau, on aura beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais dès à présent donner la parole à Anne de Varieux, qui est maître de conférence à l'Université de Caen, qui a travaillé en particulier sur Maine de Biran. Elle est l'auteur d'un livre sur Maine de Biran, l'individualité persévérante, qui est paru chez Jérôme Millon en 2004. Et elle va nous parler donc de celui qui est, évidemment, d'une certaine manière, l'antithèse d'Auguste Comte, ou en tout cas à première vue, ce qui touche le moi sans être lui, la psychologie physiologique de Maine de Biran. Et donc je lui donne la parole.
Voilà, merci beaucoup. Pardon, et merci pour votre invitation. Voilà, si l'on en croit Henri Gouillet, le fondateur de la psychologie, j'ai nommé donc Maine de Biran, serait de la même famille que le fondateur de la sociologie, à savoir Auguste Comte, puisqu'ils auraient en commun une même fin, à savoir rendre scientifique l'étude de l'homme. On connaît le refus par Auguste Comte d'une psychologie positive. Henri Gouillet résume le différent dans une formule dont nous pouvons nous inspirer. Ici, il s'agit d'Auguste Comte, une religion où la sociologie fonde le pur amour de l'humanité. Là, une religion où la psychologie fonde le pur amour de Dieu. Allusion à la dernière conversion de Biran. J'ai donc peur, bien peur, de devoir devant vous, spécialiste d'Auguste Comte, endosser le rôle peu confortable de porte-parole d'un archaïque spiritualisme en vous exposant ce qu'on pourrait appeler la psychologie romantique de Maine de Biran, en référence à la sévère expression de Canguilhem, lequel, dans les études d'histoire et de philosophie des sciences, assimilait la solitude de Biran à l'oisiveté d'un sous-préfet, qui aurait donc fondé le volo, la conscience pour soi, contre l'extériorité. Il y a loin, en effet, semble-t-il, de cette solitude-là à la religion conscienne de l'humanité. La métaphysique biranienne, ou science de l'homme intérieur, c'est-à-dire la psychologie, appartient bien, semble-t-il, à un âge ou à l'âge métaphysique. Biran serait au moins doublement rétrograde. D'abord, en prétendant fonder sa métaphysique sur une expérience intérieure ou individuelle, sans tenir compte donc d'une société qu'il dit dans son journal avoir purement et simplement oublié. Reste qu'on trouve chez Biran des éléments d'une psychologie interpersonnelle qui auront pu inspirer quelqu'un comme Gabriel Tarde. Doublement rétrograde donc, car d'autre part, il a surtout distingué radicalement de sciences qui, selon lui, n'ont ni le même objet, ni la même méthode, à savoir la psychologie et la physiologie. Pour autant, la psychologie biranienne, celle qu'il nomme pure par opposition à la psychologie qu'il nomme expérimentale, ne peut être identifiée, par exemple, à la métaphysique allemande qui sépare purement et simplement psychologie et physiologie. C'est que Biran, même si je n'ai évidemment pas le temps de vous l'exposer, a, dès ses écrits de jeunesse, senti la subordination, pour reprendre ces termes, ou le parallélisme, ou peut-être même l'identité. Ce sont les termes qu'il emploie dans le brouillon du premier mémoire. Il a senti donc la subordination, le parallélisme ou l'identité entre son état intellectuel ou moral et son état physique. Il a senti, pourrait-on dire, fortement la vie, ou encore, selon une expression qui est la sienne, il a eu le privilège des gens malsains, comme il dit, de se sentir exister. Et selon moi, le moteur de sa philosophie n'est autre que le désir qui a toujours été le sien, de faire le partage entre ce qui est nous et ce qui est proche de nous, entre ce qui nous touche sans être nous, pour reprendre donc le titre de cette communication. Ce désir aura été chez lui proprement vital dès lors qu'il définit précisément la métaphysique comme un besoin sans lequel il n'y aurait pas de science à proprement parler, bien que ce besoin, était évidemment alimenté, nourri par la lecture scrupuleuse des physiologistes, hein, qu'il s'agisse de Bonnet, Allaire, du génial Bichat, hein, mort prématurément, de Barthès ou de Cabanis. Celui donc qui, en 1807, fonda la Société médicale de Bergerac, a pensé, avec Diderot, qu'il appartient, je cite, à celui qui a pratiqué la médecine d'écrire de la métaphysique. Mais, et ce point me semble capital, c'est toujours à la lumière de son expérience propre, de son expérience donc qu'il appelle intérieure, qu'il juge de la vie. Et par exemple, le rôle que Cabanis va mettre en avant d'une sensibilité intérieure, Biran l'a découverte, pourrait-on dire, à partir de sa propre expérience. Bon, mon intention est donc de montrer la raison d'être d'une distinction entre psychologie et physiologie, dans un premier temps, et dans un second temps, la pertinence des enjeux d'une psychologie physiologique qui lui est propre et qui n'aboutit ni à l'absorption du physique dans psychologique dans le physiologique, ni l'inverse. Cette absorption, en effet, Biran ne cessa de la redouter. Ô psychologie, ô morale, gardez-vous de la physique, gardez-vous même de la physiologie, écrit-il par exemple dans les écrits sur la physiologie, hein, en écho donc à l'injonction de Newton, ô physique, préserve-toi de la métaphysique. Les préserver l'une de l'autre, c'est tracer leurs objets, leurs limites, les méthodes de deux sciences que certains ont réduites l'une à l'autre, qu'il s'agisse dans un genre évidemment différent de Stahl ou de Cabanis. La physiologie est pour Biran la science des êtres organisés, vivants et sentants, tandis que la psychologie est la science des êtres intelligents, actifs, moraux ou libres. Qu'est-ce que cela veut dire ? La métaphysique biranienne signe à la fois le refus d'un matérialisme d'inspiration biologique comme d'un spiritualisme dualiste de type cartésien. En effet, si aux yeux de Biran, Descartes est le vrai fondateur de la métaphysique, il a pourtant raté l'objet propre de la psychologie, c'est-à-dire le fait primitif qui définit l'existence personnelle, et il a fondé un dualisme substantiel, au terme duquel, au fond, Dieu seul est cause. Biran oppose à cette métaphysique, il oppose le moi de l'effort, le moi cause. Je cite Biran, « La certitude que j'ai de mon existence n'est pas celle d'un être abstrait, mais d'un individu qui se sent modifié dans un corps étendu, inerte, organisé, sur lequel il agit. La certitude de l'existence de ce corps fait donc partie essentielle de celle que j'ai de mon être. » Biran est devenu biranien avec et contre la sensation de mouvement de Destu de Tracy, et en se séparant de Tracy, il s'est séparé du vœu qui était d'abord le sien en tant qu'idéologue, de faire de l'idéologie une partie de la zoologie. Il s'est donc séparé à la fois de Destu de Tracy et de Cabanis. La découverte majeure, en effet, de Biran est celle d'une dualité interne, qu'il appelle fait primitif, qui refuse donc tout dualisme métaphysique et qui intègre pour la première fois réellement le corps dans la définition du fait de conscience. Or, cette découverte entend rendre raison d'une hétérogénéité qui, selon lui, ne saurait être sinon qu'une pierre éternelle d'achoppement de toutes les philosophies qui, comme il dit, je le cite, cherchent à expliquer comment une organisation vivante, étendue, divisible, peut être liée à un sujet pensant, un et simple. Le distinct non séparé qui définit la relation entre les deux termes de la dualité intérieure, à savoir la force dite hyperorganique et la résistance intérieure du corps propre, met donc à mal le dualisme classique et fait de l'ego un volo défini par une tension immanente à l'état de veille. Cette force dite donc hyperorganique est, dans une lettre à Destu de Tracy, appelée une hypothèse explicative nécessaire, puisqu'il s'agit de rendre compte précisément de l'irréductibilité entre un fait physiologique observable et un fait psychologique. Ainsi, l'hypothèse physiologique, si elle explique par exemple la simple sensation musculaire, ne saurait atteindre, selon Biran, au sentiment d'effort ou au sentiment de causalité. Ou pour le dire autrement, aucun moyen artificiel ne peut imiter une volonté, en reproduire intérieurement les effets ou en forcer le déploiement. On est là, me semble-t-il, au cœur du biranisme. Je voudrais donc d'abord définir l'objet et la méthode de ces deux sciences. Le sujet biranien, ou le moi de la psychologie, n'est pas une substance. Il n'est pas un objet, il n'est pas un objectum. Hein. Le sens intime n'a pas d'objet, dit Biran fortement. Il ne se regarde pas, il ne se prend pas pour objet, il échappe à ce titre, me semble-t-il, à la critique conscienne de l'introspection. La métaphysique biranienne est celle d'une expérience intérieure qu'il veut distincte de ce qui a été, selon lui, pratiqué jusqu'à présent, jusqu'à lui, à savoir l'observation intérieure. Et cette métaphysique définit le domaine de ce que Biran appelle la réflexion, mais une réflexion, là encore, qu'il repense, qu'il pense contre, en particulier, Descartes. Je voudrais citer cette phrase. « N'y a-t-il pas des pensées, des vouloirs intimes, qui ne peuvent en aucune manière se lire en dehors, ni se représenter par aucune sorte d'image ? Pour les concevoir, ne faudrait-il pas être identifié avec la force active et sciemment productive de tels actes, avec le moi lui-même qui se sent ou s'aperçoit dans ses opérations, mais ne se voit pas comme objet, ne s'imaginant point comme phénomène. » Alors cette opposition entre, enfin plutôt cette définition de la réflexion, l'oppose à ce que Biran appelle le domaine de la représentation. Hein, opposition, réflexion et représentation, à savoir que ce qui caractérise, selon lui, un fait psychologique, c'est compte tenu même de son principe, l'impossibilité pour lui de se représenter du dehors. Hein, opposition donc entre ce qui se réfléchit et ce qui peut être représenté par des signes extérieurs. Alors pourquoi ce privilège de la réflexion ? C'est parce qu'à ses yeux, le moi est donné dans un sentiment, sentiment donc d'une force qui s'exerce contre la résistance intérieure du corps propre, et ce sentiment qui m'est donné l'est immédiatement. Et c'est cette immédiation qui fait dire à Biran qu'en lui, la ratio essendi et la ratio cognoscendi, enfin, ne font qu'une. Mais ce corps résistant n'est pas, loin s'en faut, le tout de mon corps. Parce que ce dernier est modifié par ce que Biran finit par appeler le principe de vie. En tout cas, la psychologie n'admet pas plus de corps sans organes que de corps vivants qui n'auraient affection, ni de plaisir, ni de douleur. Pour le dire autrement, cette résistance intérieure du corps propre est un fait psychologique, même si elle a des conditions organiques. Alors, il en découle, évidemment, l'indépendance de la psychologie vis-à-vis de la physiologie, hein, ou si vous préférez, l'opposition entre fait intérieur et extérieur, ou encore, puisqu'on trouve l'expression chez Biran, homme intérieur, homme extérieur, bref, la distinction du moral et du physique. Ainsi, pour répondre à la question posée par l'Académie de Copenhague en 1820, Biran écrit qu'il lui parut nécessaire, je cite, d'établir d'abord les caractères distinctifs des deux ordres de faits psychologiques et physiologiques en remontant jusqu'à l'origine et au vrai fondement des différences qui les séparent. La physique aura donc pour objet les lois d'une organisation matérielle qui est dite aveugle et la psychologie les lois de l'esprit qui est, lui, intelligent et libre. Seule la première, dit Biran, est exclusivement appropriée à la science propre du sujet qui seule peut lui révéler ce qui est en lui, de lui ou lui, et le distinguer nécessairement, précisément, pardon, de tout ce qui n'est pas lui ou ne lui appartient pas, fût-ce même la sensation. Bon, deux sciences donc à part, hein, une qui ne va pas plus loin que l'effet de sens intime, et la physiologie qui est donc, elle, du côté de la représentation. Je cite là encore Biran, « Le moi aperçoit immédiatement en lui ou comme lui-même ce qui s'opère en vertu de l'effort déployé sur le corps organique, pendant que ce corps vit de son côté en vertu de ses lois propres, indépendantes du vouloir. » Alors, cette physiologie, elle a été pour Biran fondée par Stahl, véritablement, qui le premier a affranchi la physiologie de la physique, l'a empêché de sombrer dans le mécanisme. Le tort de Stahl ayant été de faire entrer les corps vivants sous la dépendance exclusive de l'âme. Un peu comme le tort de Malebranche a été de transporter la psychologie dans la théologie, Stahl a transporté, lui, la psychologie dans la physiologie. Alors, je n'ai pas le temps de montrer que Biran progressivement adopte un vitalisme qui oppose une force vivante qui agit sans se connaître et une force libre qui, elle, a la conscience d'elle-même. Quoi qu'il en soit, il y a une force donc organique ou un principe vital et une force du vouloir qui s'affronte dans un homme que Biran appelle l'homo duplex, en référence à la fameuse phrase de Boerhaave, homo simplex in vitalitate, homo duplex in humanitate. Il est double, force vitale donc hypermécanique et force du vouloir hyperorganique. Mais la grande différence entre ces deux forces, et c'est cela encore une fois le cœur du biranisme, c'est que la seconde, la force du vouloir, se réfléchit en nous. C'est-à-dire que nous n'en parlons et nous ne la nommons que parce que nous en avons le sentiment. tandis que la force de la vie, elle est connue par ses seuls effets. Donc distinction entre une vie biologique, dont la sensibilité est pour lui le fait général, et une vie personnelle ou une vie de relation, dont la motilité, et non pas la mobilité, est le vrai commencement. Le moral, donc, ne peut être du physique retourné, façon dont Biran résume Cabanis, la phrase de Cabanis, à savoir le moral n'est que le physique considéré sous certains points de vue particuliers. Le moral désigne pour lui le sujet intelligent et libre qui a le sentiment de soi et le physique, une organisation, le physiologique, pardon, une organisation, encore une fois, dans laquelle s'exprime le jeu aveugle de la vie. Il y a donc bien des rapports entre le physique et le moral, mais le terme même de rapport suggère leur distinction. Alors cette distinction, cette radicalité de l'opposition, elle est soulignée en particulier, vous le savez sans doute, par les notes critiques que fait l'aliéniste Antoine Athanase Royer-Collard, frère donc du doctrinaire avec lequel Biran a dialogué, et dont le fils publie les annotations aux nouvelles considérations donc, sur les rapports du physique et du moral. Et Royer-Collard, par exemple, de se demander si le moral renferme vraiment uniquement ce qui est libre. Ou encore, si on doit, avec Biran, affirmer que là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de moi, et donc que l'état d'aliénation se caractériserait par la suspension totale du moi. Biran, les notes de Biran ici sont précieuses. Il dit, par exemple, « Partout où entre le moi, de quelque manière qu'il y entre, le moral y est. Réciproquement aussi, de quelque nature que soient les phénomènes de l'homme, si l'activité libre et par suite le moi n'y entre pas, on est dans le physique. Donc si ce qui est libre est le fondement du moral, ce dernier n'enferme pas exclusivement le libre, mais tout ce qui se trouve, ce qui s'y trouve associé sans le constituer. Alors il en découle un certain nombre d'enjeux que je voudrais préciser. D'abord, les rapports, dix rapports donc, entre le physique et le moral, sont sans doute ou peuvent être des rapports de succession, ou de simultanéité, mais en aucun cas des rapports d'analogie ou de ressemblance, encore moins de causalité ou de dépendance nécessaire, qui serait donc dépendance entre des mouvements et des faits de sens intime. Alors, il en résulte qu'on ne peut pas, aux yeux de Biran, traduire ou convertir, si vous voulez, la science intérieure des idées en une sorte de dynamique extérieure ou de théorie du mouvement des fibres du cerveau. Subordonner, en effet, les idées à des mouvements, c'est selon lui réduire l'âme à une passivité pure, et c'est donc faire abstraction purement et simplement de ce qu'elle est, de son activité. Il y a donc, selon Biran, hétérogénéité absolue, absence complète d'analogie entre ces deux ordres de faits. Cette hétérogénéité, il l'exprime en disant, deuxièmement, si vous voulez, à quoi bon le signe quand nous avons le signifié ? Et Biran d'opposer ce qu'il appelle la langue morte de la physiologie et la langue vivante de la psychologie. Expliquer, en effet, suppose des signes sensibles. Or, le propre d'un signe, c'est qu'il doit attester son signifié. Le risque ici est donc, selon Biran, de perdre le signifié ou de le dénaturer en transférant ou transportant un système d'idées dans un autre qui lui est étranger. Pour Biran, la chose est claire, la psychologie ne peut pas être une physiologie du cerveau ou des fibres nerveuses, et pour une raison simple, c'est qu'on n'acquiert pas l'idée du moi en se regardant, ou plutôt en regardant hors de nous, des mouvements dans l'espace. Un signe, effectivement, n'a pas besoin de ressembler à la chose qu'il signifie. Et Biran fait l'hypothèse, par exemple, bien avant Bergson ou Wittgenstein, d'une intelligence supérieure qui irait dans le cerveau d'un autre et pénétrerait le secret de ses pensées. Quelles seraient les conséquences qu'on pourrait en tirer ? Je cite Biran. D'abord, les signes organiques dont il est question ne pourraient faire connaître à l'intelligence supérieure ce qui se passe de correspondant dans l'intérieur même de l'être organisé sentant et pensant, qu'en la mettant, pour ainsi dire, à la place de cet être, en la faisant sentir et penser comme lui, par un principe d'imitation ou de sympathie. Or, quel besoin, voilà ce que veut dire Biran, quel besoin quand il s'agit de nous-mêmes, ou de ces opérations dont nous avons le sentiment intime. Quel besoin de recourir à ces moyens ? Pour reprendre la phrase de Biran, quand nous avons la chose signifiée, à quoi bon le signe ? Quand nous avons le représenté, à quoi bon le représentant ? La physiologie relèverait donc d'une langue symbolique, langue morte et a fortiori muette quand il s'agit de signes dont aucune réflexion ne peut attester le signifié. Il y a encore moins de rapport, pour Biran, entre le sentiment de l'effort et le débandement d'un centre qu'entre le jeu sympathique des organes et ce qu'il appelle le sentiment de l'existence. Je cite Biran. Ainsi, pour distinguer la contraction animale de la contraction volontaire, en supposant donc que l'on fût fondé à lier la première à une réaction sympathique du centre cérébral, on pourrait chercher le type de la seconde dans l'action directe qui part de ce centre, en individualisant ainsi le symbole d'une volonté proprement dite. Mais au fond, vous le voyez, on ajoute des signes à des signes. On symbolise l'individualité du moi dans l'image d'un centre organique, sans en savoir davantage sur l'expérience intérieure. Biran, par exemple, qui a lu Bichat, trouve plus conforme au fait de sens intime que les passions trouvent leur principe dans une multiplicité de ganglions nerveux plutôt que dans l'image d'un centre cérébral, parce que cette multiplicité correspond à la confusion, à la multitude variée, si vous voulez, des affections. Mais au fond, qu'il s'agisse du désir affectif ou qu'il s'agisse de la volonté, la réaction sympathique du centre est le symbole du désir affectif, tandis que l'action qui commence dans un centre unique est le symbole propre d'une volonté motrice. Nos classifications, donc, dit Biran, sont soit réelles, soit arbitraires, conventionnelles. Et cette classification, évidemment, Biran a l'occasion d'en faire la critique lorsqu'il critique le système de Gall, dont je voudrais dire un mot, puisque je crois qu'il en sera question tout à l'heure. Biran prend pour exemple la distinction des sièges attribués à chacune des facultés. Soit cette distinction est étayée par le sens intime, auquel cas elle n'ajoute rien à la vérité du fait intérieur psychologique, mais elle exprime une sorte de parallélisme, une sorte d'accord satisfaisant, ou bien la division physiologique sert de preuve jusqu'à un certain point à l'analyse métaphysique, mais jusqu'à un certain point seulement, puisqu'elle ne peut, selon Biran, supplanter ni même justifier ou expliquer l'analyse métaphysique. Je cite Biran, « car il suffirait que les métaphysiciens multipliât arbitrairement ces distinctions ou classifications pour que le physiologiste en prît prétexte d'assigner une petite place dans le cerveau afin d'y loger telle faculté abstraite ou purement nominale. » Alors l'exemple ici, évidemment, enfin, celui qui visait c'est Gall, l'idée que Gall a eue du fonctionnement cérébral inclut donc sa division en des territoires fonctionnels qui sont des territoires hétérogènes, le cerveau ne fonctionnant pas comme un tout, mais ayant des parties spécialisées. Donc de la même façon que Bonnet subdivise à l'infini les fibres, Gall divise 27 facultés spéciales, 27 sièges cérébraux. Et il exclut, le même Gall, la localisation d'un siège de l'âme qu'il refuse. Donc on voit comment Biran et Gall ici s'entendent pour refuser de localiser l'âme, mais pour des raisons évidemment tout à fait opposées. Je cite Biran. « Il faut, a dû se dire ce grave docteur en commençant, que je mette tout l'homme en relief, tel qu'on puisse le connaître d'abord à l'inspection ou à l'attouchement des bosses du crâne. » Le système de Gall a donc une prétention métaphysique. Il s'agit de diviser ou d'analyser organiquement les facultés de l'intelligence humaine. Or, et voilà ce que souligne Biran, ces facultés sont, dans leur division comme dans leur nombre, données par les métaphysiciens, qui sont du coup l'arbitre du système. Tandis que la physiologie donc est représentative et descriptive, la psychologie, elle, se veut réflexive. Je cite là encore Biran, « La première, la physiologie, travaille sur un objet naturellement composé et qui s'offre de lui-même au sens externe, comme une machine dont on peut apercevoir séparément les pièces, les ressorts, ou imaginer les mouvements, le jeu et les produits. Tandis que la seconde ne se représente pas. » Donc, pas de rapport d'analogie ni de causalité n'existe, selon Biran, entre des phénomènes intérieurs et des mouvements conçus dans l'espace. Le parallèle, donc, entre telle disposition du crâne et telle disposition intellectuelle ne peut être, selon lui, qu'un parallèle illusoire. Parce qu'appliqué à l'ordre moral, la disposition ne peut être que métaphorique. Je cite Biran, « Il n'y a point de doute, en effet, que l'espace et le lieu ne soient comme les formes naturelles de nos représentations primitives, et que pour concevoir distinctement une idée, une modification quelconque, nous n'ayons besoin de la revêtir de l'une de ses formes sensibles, de la rapporter à quelques sièges, de la localiser, enfin, c'est ce qu'on appelle concevoir par imagination. » Imagination ou représentation, donc, par opposition à réflexion. Bref, si une division physiologique peut éclairer une analyse philosophique, encore faut-il qu'elle soit indépendante des données conventionnelles empruntées de la métaphysique ou de la logique. On peut imaginer, par exemple, ce qu'aurait été un Galque ancien qui eût porté le nombre des organes cérébraux, dit Biran, à l'égal du nombre des formes a priori ou des catégories. Sans compter, argument supplémentaire, sans compter que Gall attribue à chaque organe d'une faculté spéciale le sentiment propre de soi-même, faute duquel ne se justifie pas le sentiment de l'exercice des facultés. C'est dire qu'aux yeux de Biran, Gall, en anéantissant l'unité du moi, anéantit le moi. Ce qui reste donc inquestionné, c'est l'adéquation d'une telle décomposition avec le seul modèle intérieur qui puisse nous en donner l'idée, à savoir la réflexion. Bref, aux yeux de Biran, l'anatomie donc sera toujours muette sur le siège propre de l'homme, et elle sera toujours de l'âme, pardon, et elle sera toujours muette parce que on ne peut pas identifier la simplicité physique d'un point ou la simplicité physique d'un lieu avec la simplicité métaphysique d'un sujet. Toute explication donc ne peut jamais être que symbolique. Et à ce titre, l'unité et non pas la multiplicité de sièges donc pour de la pensée s'accorde mieux avec le sentiment d'unité du moi. Mais, je cite Biran, quand nous n'aurions aucune espèce d'idée de ce mécanisme, quand nous ne saurions même pas qu'il y a un cerveau, des nerfs et une correspondance entre ces parties, etc., l'effet de conscience en serait-il moins clair et suffirait-il moins pour nous montrer que la sensation affective, dans tous ses degrés de faiblesse ou de force, d'obscurité ou de vivacité, est aussi essentiellement différente de la perception que le corps obscur ou éclairé est différent de la lumière. Bref, le cerveau est pour nous, ou pour notre conscience vécue, comme dirait Roger Chambon, eh bien, un parfait absent. Aux yeux de Biran, donc, il n'y a pas de degré d'éclaircissement supérieur au sens intime. Je le cite, « Nous pouvons consentir à ignorer éternellement ce qui se passe dans le cerveau et dans le centre matériel de l'être sensitif quand il est déterminé à avancer pour atteindre ou à reculer pour éviter un objet de sensation agréable ou pénible, favorable ou contraire à son existence. Il nous suffit de savoir et de sentir en nous-mêmes que dans tous les cas où la sensation de plaisir ou de douleur est le principe exclusif de l'action ou du mouvement animal, l'être sensitif est déterminé et ne se détermine pas. » Donc le cerveau, les nerfs, voilà des conditions ou des instruments et non pas des causes. S'il y a une correspondance, au fond, elle ne saurait être admise, dit Biran, que comme une sorte d'harmonie préétabli entre des mouvements et des idées qui doivent les représenter, qui doivent les figurer, mais cela n'empêche l'hétérogénéité entre ces deux ordres de fait. Donc au mieux, on n'éclaircit pas la métaphysique, au pire, on obscurcit la théorie psychologique sur l'origine des idées. Pourquoi faudrait-il que l'âme ait d'abord à apprendre à lire dans son cerveau alors qu'elle peut très bien le faire en elle-même puisqu'elle a la conscience de ses opérations? Bon, mais en même temps, et c'est le deuxième temps évidemment de mon exposé, Biran plaide pour une psychologie qu'il appelle donc expérimentale et qui ne serait pas une psychologie pure. Alors comment et pourquoi plaide-t-il pour une telle psychologie ? Cette psychologie, il l'appelle donc physiologique dans les nouvelles considérations, psychologie expérimentale ou psychologie physiologique, qui a donc un lien avec la physique animale. Il ne s'agit pas de revenir sur ce qu'il a dit pour affirmer l'analogie ou la ressemblance, mais il s'agit au contraire de mettre l'accent sur deux branches de faits qui entrent en correspondance. Ou dans le langage de Biran, il s'agit de mettre en avant un fait d'une espèce mixte dans lequel, je cite, viennent coïncider deux sortes d'observations différentes et qui se trouvent placées, pour ainsi dire, sur leurs limites communes. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun entre la psychologie et la physiologie, s'il est vrai qu'on vient de les séparer tout à fait radicalement? Eh bien, leur objet commun, c'est ce que Biran appelle l'être mixte, c'est-à-dire l'être vivant sentant. L'objet qui leur est commun, c'est l'homme, je cite, « considéré uniquement comme sentant ou comme susceptible d'affection et de passion, en prenant ce dernier mot dans toute son étendue ». Alors, c'est ce qu'il appelle dans les rapports, d'un autre terme, la physiologie transcendante. Physiologie transcendante qui échappe donc par définition à ceux qui ne voient dans le moral que des effets encore physiques. Alors, évidemment, il est extrêmement difficile de circonscrire ladite science, psychologie physiologique, et cette difficulté de l'entreprise n'en empêche pas la nécessité, mais Biran la résume de la façon suivante. L'homme réunit en lui bien certainement deux sortes de facultés qu'on ne peut se refuser à distinguer dans les faits du sens intime, alors même qu'on les identifierait, quant au principe, à la force productive absolue. Vous voyez que le spiritualisme de Biran, ou ce qu'on a coutume d'appeler spiritualisme de Biran, terme d'ailleurs qui est extrêmement peu fréquent sous sa plume, serait pour le moins à nuancer, hein, alors même qu'on les identifierait quant au principe, à la force productive absolue, qu'il y a, ou qu'il paraît donc y avoir aussi en lui, deux sortes de lois résultantes du double rapport qu'il soutient comme être sentant avec les objets par les impressions qu'ils peuvent faire sur ses divers organes et avec lui-même ou avec ses propres modifications comme sujet pensant, capable de réfléchir, d'agir et de vouloir. Donc il s'agit par cette expression de donner à la psychologie une extension, hein, étendre la psychologie, je cite, cette psychologie comprenant désormais tout ce qui touche, pour ainsi dire, le moi, sans être encore lui, ni à lui, tout ce qui, s'il n'est pas du ressort du sens interne, de notre individualité réflexive, peut devenir l'objet d'une sorte de tact intérieur immédiat, qui se lie dans certains individus, surtout, aux affections les plus simples et aux impressions les plus fugitives, aux mouvements organiques même, ou aux résultats les plus obscurs du jeu de la machine organisée. Cette physiologie, qui serait intimement unie à la psychologie, c'est celle qui, selon Biran, est apte à parler de ce que Biran appelle les affections pures. C'est-à-dire que Biran ne se contente pas d'opposer, hein, l'ordre de la réflexion à l'ordre de la représentation, mais il y ajoute un troisième terme, si je puis dire, qui désigne un troisième ordre de fait, qui est le domaine des perceptions obscures ou des affections pures, qui ont ceci de propre qu'elles ne sont pas localisables et qu'elles échappent en quelque sorte à la résistance intérieure de mon corps et donc à ma conscience propre. Alors, ces affections pures, Biran envoie, pour ainsi dire, l'existence d'un nombre de phénomènes qui témoignent précisément de ces affections. Je nomme évidemment le sommeil, le songe, le délire, l'aliénation mentale, mais plus simplement, si je puis dire, ou de façon moins radicale, le simple fait, la simple constatation que l'exercice de la pensée est favorisé par un certain mode des fonctions vitales. Alors, ce qui est remarquable, et je conclurai évidemment là-dessus, parce qu'il faut que je conclue, c'est que Biran est obligé de forger une expression, tact intérieur, tact immédiat, tact passif, pour échapper à la fois au discours en première personne propre à la réflexion, comme au discours à la troisième personne, qui définit cette fois l'ordre de la représentation. Et ce tact, il pensait qu'il en était doué, il pense que Rousseau en a été éminemment doué, et il pense qu'il est nécessaire aux médecins comme aux métaphysiciens. Par où l'on voit que Biran se distingue radicalement de ces métaphysiciens purs qui, à ses yeux, été quelqu'un, enfin un philosophe comme Pascal ou même Descartes. Mais il s'agit précisément, encore une fois, de ne pas confondre des sentiments proprement dits intellectuels ou moraux avec des affections pures. Cette nécessité, il l'a vue d'autant, et je conclue là-dessus, qu'il s'est cru obligé de forger un terme, un nouveau terme dans la langue, qui est le terme de physiopsychologie. Je voudrais vous citer le passage dans les nouvelles considérations. Pour dire le mélange, pour dire cette composition, quel est le caractère propre de cette espèce de fait que je me permettrais d'appeler dès à présent physiopsychologique pour exprimer les rapports mixtes avec l'une et l'autre branche de la science de l'homme. J'observerai sur l'emploi d'un terme nouveau et un peu bizarre, physiopsychologie, que je suis obligée de le créer pour exprimer une espèce de fait qui, s'ils ne sont pas nouveaux ou inconnus, n'ont jamais été observés ou notés séparément des faits physiologiques ou psychologiques avec lesquels les théories les confondent. Alors, à l'époque de ma thèse, j'avais fait des recherches sur ce composé, et si l'on en croit Jean Starobinski, dans son livre Action et réaction, il faut rapporter le composé psychosomatique à Johann Christian Einroth. Il daterait donc de 1818. Le texte des nouvelles de considération date de 2 ans après, 1820. Donc au fond, Biran aurait été, sans le savoir, devancé de 2 ans. Mais il est intéressant de noter que pour exprimer encore une fois ces faits, Biran se trouve dans la nécessité d'inventer un terme. Bref, je conclue. Tout ce qui n'entre pas donc directement dans les lois morales s'y rattache pour autant, comme le dit Biran. À cette condition seulement, une science de l'homme est possible, c'est-à-dire une science de l'homme physique et morale. mais à la condition, ou plutôt à la... à la condition qu'on repère d'une certaine façon une intériorité qui n'est pas ou qui ne fut pas pour Biran une intériorité d'effort, mais qui est quand même une intériorité, hein, une intériorité sensible, qui pour lui est un point aveugle, hein, puisqu'on ne peut pas au fond surprendre ce point, qu'on ne peut pas l'attraper, qu'il se volatilise comme Eurydice quand on se retourne sur elle. Hein, il y a des modes passifs de la sensibilité qui pour être passifs n'en sont pas moins intérieurs. Mais confondre les deux sciences, confondre purement la psychologie et la physiologie, ce serait se méprendre, et plus que se méprendre, ce serait, aux yeux du Biran, fausser la direction à la fois théorique et pratique de la vraie science de l'homme. Voilà, merci.
Bien, écoutez, je vous remercie de ce bel exposé qui s'est tenu en plus dans les limites convenues. Je crois que les organisateurs ont souhaité que la discussion...